RFI, 8h à Paris, 6h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Bonjour Gaëtan Plenel.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
L'aide humanitaire entre à nouveau à Gaza.
Oui, mais en petite quantité et c'est loin de suffire dans l'enclave en guerre où les habitants manquent toujours de tout, vous les entendrez dans ce journal. L'enquête continue à Washington, un suspect a été inculpé après le meurtre de deux employés de l'ambassade d'Israël près d'un musée juif dans la capitale américaine. Dans ce journal également, le portrait d'une ingénieure russe à la retraite, elle a 84 ans et la justice la poursuit pour ses critiques contre la guerre menée en Ukraine. On sera aussi en République démocratique du Congo. Là-bas, les sénateurs ont levé hier à une écrasante majorité l'immunité parlementaire de l'ex-président Joseph Kabila. Concrètement, ça veut dire que la justice militaire va pouvoir engager des poursuites contre lui. Interdire le port du voile avant 15 ans, l'ex-premier ministre français Gabriel Attal le souhaite et ça fait polémique, y compris dans son propre camp. Et puis on sera évidemment à Cannes, dans le sud de la France, dernier jour de compétition au Festival de cinéma. La Palme d'Or sera décernée demain. Je vous demande de faire preuve de pitié, l'appel du chef de l'Organisation mondiale de la santé à Israël, un appel pour mettre fin à la guerre à Gaza, une guerre, dit-il, qui nuit à Israël et n'apportera pas de solution durable. Pour le patron de l'OMS, faire de la nourriture et du matériel médical une arme est injuste. Car aux frappes israéliennes quotidiennes, 52 morts hier, 16 autres cette nuit, s'ajoutent aussi les pénuries en tout genre, conséquence de près de 3 mois de blocus total. Israël, c'est vrai, y a mis fin en laissant entrer 90 camions d'aide humanitaire mercredi. Une goutte d'eau dans l'océan tant les besoins sont immenses. Témoignage ce matin de Gazaouis recueillis depuis Jérusalem par Samy Bourlifa.
Taïma ne mange plus grand-chose. Le peu de nourriture qu'il lui reste, elle le réserve à sa fille âgée de 4 ans.
J'ai pu trouver de la fécule de maïs, de la maïzena. J'en mets une cuillère dans un verre d'eau et je le donne à boire à la petite. Comme il n'y a plus de pain, c'est une sorte de substitut de repas.
Sur les marchés de Gaza, les rares légumes disponibles sont hors de prix. La mère de famille affirme avoir trouvé de la farine de blé infestée d'insectes à plus de 40 euros le kilo. Beaucoup trop cher, inaccessible pour elle. Alors, elle attend, elle espère l'arrivée de l'aide humanitaire.
Depuis ce matin, on entend dire qu'ils ont reçu de la farine dans le sud de la bande de Gaza. Mais ici, dans le nord, il n'y a toujours rien.
Après deux mois et demi de blocus total, le premier ministre israélien a de nouveau autorisé l'entrée d'une petite quantité de nourriture à Gaza. Pas pour des raisons humanitaires, mais pour des raisons diplomatiques, explique-t-il. Ajoutant, des amis d'Israël me précisent qu'ils ne pourront plus soutenir la poursuite de la guerre si des images de famine de masse à Gaza devaient être diffusées. Benjamin Netanyahou est recherché pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Samy Bourlifa, Jérusalem. RFI.
Le premier ministre israélien qui restait sourd aux appels de la justice de son propre pays. Mercredi, la procureure générale lui avait interdit de nommer le nouveau patron du Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure. Mais qu'importe, Netanyahou l'a quand même désigné hier en la personne de David Zinni, général de division, actuellement à la tête du corps d'état-major général. Netanyahou le veut donc aux manettes du Shin Bet pour remplacer Ronen Bar, démissionnaire poussé vers la sortie par le gouvernement.
Aux États-Unis, un homme de 31 ans présenté à un juge hier.
Puis placé en détention, inculpé pour le meurtre de deux employés de l'ambassade d'Israël. Ça s'est passé mercredi soir près d'un musée juif de Washington. Il leur aurait d'abord tiré dans le dos en pleine rue avant de les abattre une fois tombés au sol. Un acte de terrorisme selon le FBI. Et c'est ce que semblent montrer les recherches en ligne faites par l'Anti-Defamation League, la plus importante association de lutte contre l'antisémitisme aux États-Unis et même dans le monde. Marina Rosenberg en est la vice-présidente pour les affaires internationales.
Manifestement, ce n'était pas une attaque spontanée, c'était prémédité et motivé idéologiquement. Nos centres sur l'extrémisme ont trouvé beaucoup d'informations sur l'assaillant qui était impliqué ces derniers mois et ces dernières années dans des activités anti-Israël et dans des groupes anti-sionistes extrémistes. Cela montre, une fois de plus, qu'il faut en faire plus pour combattre la haine en ligne. Parce que les mots ont des conséquences et ils ne restent pas dans la sécurité des espaces en ligne quand la rhétorique antisémite est normalisée et tolérée dans nos sociétés, alors cela crée un environnement dans lequel les violences contre les Juifs deviennent plus probables.
Des propos recueillis par Guillaume Naudin. et de 5e session de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran ce vendredi. Ça se passe à Rome, la capitale italienne. Ces discussions sur le nucléaire iranien ont commencé le mois dernier. Téhéran espère obtenir une levée des sanctions américaines. Mais les négociations semblent compliquées, notamment sur la question de l'enrichissement d'uranium, Washington y étant fermement opposé. Les États-Unis ou Harvard ne pourra pas accueillir d'étudiants étrangers pour la prochaine année scolaire, décision de l'administration Trump qui continue de s'en prendre à cette prestigieuse université privée. Elle lui a déjà gelé ses financements fédéraux et c'est un nouveau coup dur pour le campus qui accueille actuellement plus de 6000 étudiants venus d'autres pays, soit 27% de ses effectifs. Pour l'Association américaine des professeurs, le président et son gouvernement chercheraient à détruire illégalement l'enseignement supérieur dans le pays. Le G7 finance s'y engage. La pression va être maximisée sur la Russie. Déclaration faite hier au terme de 3 jours de réunion dans l'ouest du Canada. C'est une menace si Moscou continue de refuser un cessez-le-feu en Ukraine. Les ministres du G7 se sont aussi mis d'accord pour que tout pays qui aurait, je cite, financé ou fourni la machine de guerre russe ne puisse pas prendre part à la reconstruction de l'Ukraine.
Pendant ce temps, en Russie, la répression contre les opposants à la guerre n'épargne personne.
Même quand on a 84 ans, comme Lyudmila Vassilieva, grande figure des milieux d'opposition à Saint-Pétersbourg. Alors jusqu'à présent, elle échappait à des poursuites grâce à son statut de survivante du blocus de Leningrad au début des années 40, mais c'est fini. La justice a rattrapé cet ingénieur à la retraite. Explication à Moscou d'Anissa El-Jabri.
Lyudmila Vassilieva a été depuis 30 ans à Saint-Pétersbourg de toutes les manifestations pour la liberté et le respect des droits humains. Dès février 2022 et l'envoi de soldats russes en Ukraine, on l'avait vu protester avec une pancarte « Non à la guerre » et recommencer. Arrêté plusieurs fois, on avait pourtant encore entendu sa voix le jour de la mort d'Alexei Navalny. L'été dernier, elle avait même tenté de se présenter aux élections locales. Lyudmila Vassilieva déclarait alors « J'ai décidé de voir combien de temps cela allait prendre pour que je sois classée agent de l'étranger. » C'est finalement une pancarte qui lui vaut sa mise en cause devant la justice. Elle y avait écrit « À tous, arrêtons la guerre. Nous sommes responsables de la paix sur Terre. » Avec cette signature, avec amour, Lyudmila, enfant de Leningrad assiégé. Cette grand-mère de 4 enfants risque une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 roubles, 550 euros au cours actuel. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
À Maurice, le Premier ministre salue une grande victoire et la fin du processus de décolonisation. Le Royaume-Uni a signé hier un accord qui reconnaît la souveraineté de l'île Maurice sur l'archipel des Chagos dans l'océan Indien. Le litige remonte à plusieurs décennies, à 1968 pour être précis, date à laquelle Maurice avait obtenu son indépendance du Royaume-Uni. Mais les Britanniques avaient alors conservé le contrôle de ces îles Chagos. Près de 2000 habitants de l'archipel avaient été expulsés, notamment sur l'île de Diego Garcia, où se trouve une base militaire américano-britannique. L'accord signé hier prévoit d'ailleurs que Londres conserve un bail de 99 ans sur cette île.
Un ex-président en exil, mais qui pourrait être poursuivi par la justice de son pays.
C'est en République démocratique du Congo que ça se passe. Le Sénat a levé hier les immunités de l'ancien président Joseph Kabila. Alors ça veut dire qu'il pourrait être poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, trahison, participation à des crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour son soutien présumé au groupe AFC M23. Son immunité est donc levée. La décision a été sans appel. 88 voix pour, 5 contre seulement et 3 abstentions. Une injustice pour Ferdinand Kambere, porte-parole du PPRD, le parti de Joseph Kabila.
Ce qu'on doit simplement retenir est que le régime de Tshisekedi s'est inscrit dans une voie de nous ramener dans une dictature la plus désolante possible. Où ici, on voit un Sénat qui veut considérer Kabila comme un membre du Sénat, mais en réalité, même la disposition invoquée qui, en réalité, ne concerne que les sénateurs élus par des députés provinciaux dont les immunités sont les produits de la validation de leur mandat de sénateur. Mais ici, Kabila, en tant qu'ancien président de la République, son statut est géré par une autre loi qui n'a rien à voir avec une décision de la Commission. Il vote les yeux fermés, peut-être parce que dans notre pays, que c'était à coup d'argent qu'on allait prendre cette décision pour intimider, bâillonner l'opposition. C'est ça qu'on voit bien la volonté du régime qui est là, quelle que soit la procédure. Mais ici, lui n'est pas sénateur comme cela. Lui a un régime spécial, un régime pénal. C'est le Congrès réuni qui doit examiner l'opportunité de poursuite, qui doit décider de la poursuite.
Ferdinand Cambéré, porte-parole du PPRD, interrogé par Alexandra Brangeon. Le ministre haïtien des Affaires étrangères dénonce des actes xénophobes et la violation des droits des Haïtiens en République dominicaine. Là-bas, le président veut lutter contre l'immigration en provenance d'Haïti. Depuis quelques semaines, les immigrés haïtiens doivent notamment présenter leurs papiers quand ils se rendent dans les hôpitaux, sous peine d'être expulsés après avoir été soignés. Haïti dénonce notamment de mauvais traitements infligés aux femmes enceintes. Il est 8h10 à Paris, où les propositions d'un ancien Premier ministre font polémique, celle de Gabriel Attal, qui a suggéré des mesures après la publication d'un rapport sur l'entrisme des frères musulmans dans le pays. Il veut notamment interdire le port du voile avant 15 ans, et même dans son propre parti Renaissance, ça ne fait pas l'unanimité, Aurélien Devernois.
Il faut très bien chercher pour trouver un soutien public aux propos de Gabriel Attal. À part le cercle de ses fidèles, comme la députée Prisca Thévenot, c'est une volée de bois vert que reçoit l'ancien chef du gouvernement depuis deux jours. Dernier exemple en date, le procès lancé en tenaille par le président du Sénat, Gérard Larcher, et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ces propositions sont inapplicables, scandent les deux barons de la droite. Elles sont surtout en contradiction totale avec les positions passées de Gabriel Attal, s'est fait un plaisir de rappeler Jordan Bardella. Le président du Rassemblement National n'a pas manqué de publier une vidéo d'un débat entre lui et l'ex-premier ministre avant la présidentielle 2022, durant lequel Gabriel Attal fustigeait la chasse aux femmes voilées que Marine Le Pen appliquerait selon lui si elle était élue. Mais évidemment, les critiques les plus acerbes viennent de la gauche. La digue a complètement sauté, s'alarme le patron du PS Olivier Faure. Ces irresponsables déroulent le tapis rouge à l'extrême droite, à moins qu'il ne s'agisse de tirer ce même tapis sous les pieds des concurrents putatifs de Gabriel Attal pour la présidentielle 2027, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et l'actuel ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.
Et Aurélien Devernois du service politique de RFI.
Et puis, dernier jour de projection à Cannes.
Dernière ligne droite, donc, pour le Festival du cinéma. C'est demain soir que l'on saura qui remporte la Palme d'Or. Suspense et compétition encore. Bonjour Guillaume Thibault.
Bonjour Gaëtan Plenet.
En direct de Cannes, où vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux. Alors, il y avait 22 films en lice, il en reste deux à présenter aujourd'hui, les autres l'ont été ces derniers jours. Hier, c'est le réalisateur iranien Saïd Roustaï qui est venu sur la croisette présenter son dernier long-métrage « Woman and Child ».
Et ce film est arrivé à Cannes avec une polémique. Salué ici en 2020 pour Leïla et ses frères, Saïd Roustaï a été condamné à 6 mois de prison à son retour en Iran. Cette peine n'a jamais été appliquée, mais le réalisateur a cette fois demandé des autorisations au pouvoir pour tourner Zan Obacheh, femme et enfant. Saïd Roustaï, critiqué par certains, soutenu par d'autres, notamment le réalisateur Jafar Panahi, s'est exprimé à la sortie de la projection au Théâtre Lumière.
Merci beaucoup, je suis vraiment excitée d'être ici, extrêmement émue. Je veux vraiment dédier cette séance à tous mes collègues qui ne peuvent pas travailler aujourd'hui. J'espère vraiment qu'on puisse tous travailler ensemble, côte à côte, et faire des films ensemble.
Le film Femme et Enfants, c'est l'histoire de Manaz, infirmière d'une quarantaine d'années qui casse tout ce qu'elle touche, son couple, ses enfants, ses proches. Sans être frontal, le réalisateur Saïd Roustaï cherche visiblement à montrer que le régime iranien, le patriarcat, sont à l'origine de ce mal, de cette oppression sur les femmes qui, de fait, ne peuvent s'exprimer qu'en hurlant, long, édulcoré. Avec Femme et Enfants, Saïd Roustaï a fait ses choix, ne pas attaquer frontalement le pouvoir des mollahs, avec cet argument, son envie importante pour lui que ses films soit vu par les gens de son pays.
Merci Guillaume Thibault en direct de Cannes.
Et merci Gaëtan Plenet pour le journal. Tout de suite les sports. Avec vous Antoine Grenier, en football, c'est le seul grand championnat européen à avoir gardé son suspense jusqu'au bout. L'Italie connaîtra son champion ce soir.
38e et dernière journée, deux matchs pour le dénouement du Scudetto. Naples, le leader, et son dauphin, l'Inter Milan, joue le titre à distance. Les Nerazzurri, finalistes de la Ligue des Champions, le 31 mai affrontent Côme. Les Napolitains, avec un point d'avance, n'ont eux pas besoin de calculer. Une victoire sur Cagliari et le sacré à eux. Mais Antonio Conte, l'entraîneur du Napoli, privé de banc pour cause de suspension, a connu suffisamment de désillusions dans le passé pour ne pas s'emballer.
Je peux être un spécialiste des victoires, mais je suis aussi et surtout spécialiste des défaites. Ma carrière parle d'elle-même. Si on regarde ce que j'ai perdu durant ma carrière de joueur, ça donne 3 finales de Ligue des Champions, 1 finale de Coupe du Monde, 1 finale de Championnat d'Europe, 1 finale de Coupe UEFA, et je pourrais en citer beaucoup d'autres. Ça a créé une carapace très dure en moi, et parfois même ça me rend méchant. Et bien sûr, ça me déçoit de ne pas être sur le banc cette fois-ci, parce qu'au bout d'un championnat comme celui-ci, on voudrait être là, à côté de ces gars, devant ses supporters, pour essayer quand même de guider l'équipe. Mais j'ai une grande confiance envers le staff, les fans et dans l'ambiance qui sera créée. En fait, j'aurai deux cœurs, un sur le banc et un en tribune.
Naples, Cagliari, 18h45, temps universel, en même temps que Côme Inter Milan.
En basket, Monaco a seulement deux matchs d'une victoire en Euroleague.
Les joueurs de la Roca Team sont à Abu Dhabi pour disputer le Final Four de la compétition. À leur agenda, pour commencer, une demi-finale contre l'Olympiakos, trois fois titré et premier de la saison régulière. Premier entre de 18h, temps universel. L'autre demi opposera le club grec du Panathinaikos au Fenerbahçe Istanbul.
En tennis, Roland Garros 2025, c'est parti. Le tirage au sort a été effectué par Ousmane Dembélé.
Et l'attaquant du PSG, venu en voisin, a fait plus plaisir au tenant du titre Carlos Alcaraz qu'au numéro 1 mondial Yannick Sinner. L'Italien versé dans la moitié de tableau d'Alexander Zverev et de Novak Djokovic. Bien plus loin au classement, Stan Wawrinka, 139e mondial, a bénéficié d'une invitation pour disputer son 20e Roland Garros. 10 ans après son sacre parisien de 2015, Wawrinka est simplement heureux d'être toujours là.
C'est sûr, 10 ans, ça fait beaucoup. Et en plus, quand je l'ai gagné, j'avais 30 ans. Donc je pensais... très proche de la fin. J'aurais jamais imaginé 10 ans après encore avoir cette chance de jouer dans le tableau final. Mais bien sûr que ça passe vite. Mais d'un autre côté, je pense vraiment avoir fait le maximum toutes ces années pour profiter, pour avoir aucun regret, pour faire le maximum au niveau de ma carrière, de mon tennis, pour essayer de repousser les limites à chaque fois. Aujourd'hui, mon corps va bien par rapport à mon âge, par rapport à ce que je suis capable de faire. Je suis content. Physiquement, je me sens bien, tennistiquement aussi. Et je suis très heureux d'avoir reçu une wildcard pour jouer Roland Garros. Quand Amélie m'a appelé pour m'annoncer, j'étais très heureux. J'apprécie énormément ce geste parce que je sais que c'est des décisions qui sont difficiles pour les tournois de choisir à qui donner les wildcards.
Stan Wawrinka avec Eric Mamrut. Premier tour, le Suisse affrontera le Britannique Jacob Fiernley.
Merci Antoine Grenier. C'était il y a pratiquement un mois, l'Espagne et le Portugal plongés dans le noir, frappés par une gigantesque panne d'électricité qui a privé 55 millions de personnes de courant pendant 17 heures. On en reparle ce matin dans Aujourd'hui l'économie. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Julien.
Si les causes techniques de cet événement sont encore sujets à enquête, les conséquences, elles, sont là. Elles sont même européennes puisqu'elles concernent l'intérêt des investisseurs dans le renouvelable, Stéphane.
Oui, car il faut rappeler que l'Espagne est la vitrine de l'Europe en matière de solaire et d'éolien. L'an passé, plus de la moitié, 56% exactement de son électricité provenait de sources renouvelables et même 100% certains jours. Rien qu'en 2024, ce sont 18 milliards d'euros qui ont été investis dans des projets renouvelables.
Je me fais l'avocat du diable, Stéphane, mais ça n'a pas empêché cette panne du 18 avril.
C'est vrai.
Du 28 avril, pardon.
C'est vrai, 28 avril, effectivement, vous avez parfaitement raison, Julien. Cette réussite espagnole, en effet, masque des faiblesses structurelles qui peuvent expliquer cette panne. C'est en tout cas une piste évoquée. Selon la banque Goldman Sachs, pour 1 euro investi dans les renouvelables, seulement 30 centimes sont allés aux infrastructures de transport et de distribution. C'est 3 fois plus en France, 5 fois plus en Italie. Résultat, un réseau ancien qui coince quand toutes les sources renouvelables fonctionnent à plein.
Trop produire représente en fait un risque pour les réseaux?
Oui, c'est ça. Équilibrer offre et demande d'énergie, c'est essentiel pour la stabilité du réseau, hein, si on veut éviter la coupure. Et avec des énergies intermittentes, c'est plus dur à piloter. Donc parfois, quand le soleil donne à plein, les fermes solaires espagnoles ne peuvent pas mettre toute leur production sur le réseau. Et pour le moment, il n'y a pas de batterie assez grosse pour la stocker. Donc cette énergie est perdue.
Donc il faut encore investir un peu plus, même si vous disiez que le niveau des investissements espagnols était déjà important.
Et investir, c'est tout l'enjeu. Cette panne semble d'ailleurs avoir servi d'électrochoc et c'est paradoxal, Julien. D'un côté, ça met en avant la fragilité d'un réseau qui a parfois 40 ans et qu'il faut moderniser. D'un autre, le risque d'un retour sur investissement très long à obtenir, car si on produit trop souvent, c'est le prix de l'électricité qui baisse et donc également la rentabilité des projets. Alors concrètement, les argentiers oscillent entre scepticisme et exigence.
Et quelles sont les pistes pour relancer la confiance?
Eh bien, les investisseurs attendent un soutien de l'État, évidemment. Pour l'Espagne, le gouvernement prévoit 308 milliards d'euros d'ici 2030, hein, c'est demain. Mais 82% de ces fonds doivent venir du privé. Conséquence, en l'absence de signes positifs, beaucoup de projets sont mis sur pause car les attentes des marchés sont claires. Évidemment, être mieux accompagné, avec plus d'investissements publics dans les réseaux et avoir un cap concernant la construction de capacités de stockage. Alors oui, Julien, l'exemple espagnol le prouve, intégrer plus d'énergie renouvelable sur les réseaux n'est pas si simple, mais il ne faut pas oublier que cela répond à une nécessité primordiale, à savoir décarboner nos économies. Et qu'accessoirement, cela renforce aussi la souveraineté européenne en nous rendant un peu moins dépendants du gaz russe ou américain.
Aujourd'hui l'économie, Stéphane Genest, merci beaucoup. 8h19 à Paris, un peu d'histoire ce matin avec notre grand invité international et une bande dessinée qui nous plonge dans les soubresauts d'une période aussi étudiée que méconnue, aussi idéalisée que débattue, la Révolution française de 1789 et les premières années de la République en France. Bonjour Guillaume Mazot.
Bonjour.
Historien, maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Merci d'être avec nous ce matin pour parler donc de votre bande dessinée qui vient de paraître en France dans la série L'histoire dessinée de la France. Ça s'appelle Notre Révolution, de l'Ancien Régime à la Première République, une période parmi les plus couvertes, on peut le dire, de l'histoire de France. La Révolution française, tous les écoliers l'ont étudiée, elle a fait l'objet de très nombreux livres, de BD, de films, mais elle reste en même temps un sujet de débat, de polémique. Qu'aviez-vous en tête, que souhaitiez-vous parvenir à dire, à faire, en démarrant cet ouvrage ?
Eh bien, je voulais dire que, en fait, oui, elle est très connue, elle est enseignée depuis le primaire jusqu'à la fin de la scolarité dans l'enseignement supérieur. Cette révolution, on a l'impression de la connaître. C'est pour ça que le livre s'appelle Notre Révolution. Mais qui est ce nous ? En fait, et on ne sait plus trop aujourd'hui de quoi on hérite et qui sont les héritiers. Parce que, au fond, pour la première fois, on est une génération, on est des générations qui connaissent, on connaît pas de révolution autour de nous en Europe, contrairement à la fin du XXe siècle avec le démantèlement de l'ancienne URSS. Et puis, il y a des grandes questions qui nous reviennent et qu'on n'a pas l'habitude d'associer à la révolution. Je pense, par exemple, à la dette haïtienne. Donc, il y a des grandes questions internationales qui viennent percuter un événement qui a longtemps été raconté dans des ornières nationales, à travers le grand roman national. C'est un peu ça aussi que j'ai envie de raconter parce que, c'est ça l'histoire. Et réexaminer les faits en fonction des questions du présent.
On suit dans votre BD une jeune héroïne dont on va reparler, qui se retrouve propulsée dans le temps et qui rencontre un duo singulier, le révolutionnaire Marat qu'on connaît bien, et celle qu'il a assassinée dans sa baignoire en 1793, Charlotte Corday, condamnée à errer ensemble pour l'éternité, à se chamailler aussi. Il passe le plus clair de votre BD à se disputer sur ce qu'était la révolution, le sens de certains événements, et il voyage dans le temps avec une machine à remonter le temps bricolée par Marat. C'est une manière de retranscrire, tout en racontant la Révolution française, les débats, les conflits de récits qu'elle a suscité à l'époque et qu'elle continue de susciter aujourd'hui.
Oui, exactement. La Révolution française, souvent, on l'utilise alors dans les politiques publiques de la mémoire, dans les grands discours politiques, comme un élément du consensus pour rassembler. Et de fait, depuis la Troisième République surtout, elle fait partie de ce qui peut diffuser une culture républicaine et peut nous sentir être ensemble. Et puis, il y a elle a des héritages dans notre droit, le socle de constitutionnalité, la déclaration des droits de l'homme, etc. Mais il faut pas oublier, et quand on fait de l'histoire, il faut toujours le rappeler, que c'est aussi un événement, ça a été une guerre civile, ça a été des débats âpres. Et puis c'est des débats qui continuent à nous irriguer, alors parfois en sourdine, on n'en a pas l'impression, mais en fait c'est ça que j'ai voulu traduire. La Révolution française, ça n'a jamais été l'événement consensuel, qui est un peu lissé aujourd'hui par le patrimoine, mais des débats âpres qui sont représentés par ces personnages-là qui arrêtent pas de s'engueuler.
Ouais.
Et j'ai essayé aussi que ce soit un peu drôle.
C'est assez ludique, c'est voilà. Un peu pour tout le monde.
Oui, alors ça se lit à partir, je dirais, de 15 ans, à partir du moment où on étudie ça au lycée, en première, 15-16 ans. Voilà.
On découvre aussi en vous lisant que quelques idées reçues tenaces sont fausses, comme le mythe de la mort de Louis XVI voté à une voix près que, j'avoue, je croyais moi-même vrai. On voit aussi que les origines de la Révolution de 1789 sont beaucoup moins simples qu'on ne le croit à retracer. On peut dire que paradoxalement, cette période est en réalité assez méconnue et que son histoire a été simplifiée par ceux qui l'ont écrite.
Oui, puisque sa mémoire et même son histoire ont été très polarisées. D'un côté, il y a ceux qui défendaient l'héritage positif de la Révolution et les autres qui l'attaquaient. Alors, il y a encore des héritages de ça aujourd'hui. Hein. Je pense par exemple au Puy du Fou, aussi à toutes les manipulations et instrumentalisations de l'histoire, tendant à montrer la Révolution comme une sorte de bain de sang ou de déclin de la civilisation, etc. En réalité, voilà, j'ai voulu introduire un peu de complexité et puis aussi... c'est mon rôle d'historien, faire le tri. C'est-à-dire qu'on est quand même à une période où il faut, les faits, l'établissement des faits, comme vous, hein, les journalistes, on est un peu dans une bataille en ce moment et ça compte, les faits ça compte évidemment. Hein. Là on voit ce qui se passe avec Trump, en France on n'est pas du tout à l'abri de ça, voilà, donc... voilà, la terreur. Voilà, on aborde des grands sujets de manière un peu ludique.
Votre livre s'appelle donc Notre Révolution et vous le disiez vous-même que vous vous interrogez sur ce nous et ce qu'il veut dire parce qu'elle n'a pas bénéficié à tout le monde de la même façon. C'est le cas pour les minorités de l'époque, mais c'est le cas aussi notamment pour les femmes.
Mais oui, bien sûr. Alors, c'est la Révolution, c'est un moment, un grand moment paradoxal. fait de contrastes, en fait, de grandes avancées. D'ailleurs, on peut dire que quand même, elle a laissé des héritages quand même émancipateurs, mais pas seulement. Et très longtemps, même à l'université, hein, nous qui étions, en tout cas mes prédécesseurs, chargés de faire de la science, de l'écrire scientifiquement, contre les manipulations, mais en même temps de la défendre, pendant très longtemps, on n'a pas raconté l'histoire de ces minorités. Alors, c'est les femmes, c'est les non-blancs dans les colonies. Ouais. Dans cette BD, j'essaye de vraiment montrer que la France, c'est un empire colonial. Les juifs, les pauvres, les enfants, mais aussi les contre-révolutionnaires dont on a souvent, nous, pas raconté l'histoire. Il est temps de remettre tout ça à plat et de raconter l'histoire de tout le
monde. Vous avez commencé à esquisser justement la dimension coloniale de la Révolution française sur laquelle j'aimerais qu'on s'attarde. Votre récit commence en Haïti quand votre héroïne, une secouriste, retrouve dans les décombres du séisme de 2010 l'acte original d'indépendance de 1804. Il montre aussi les révoltes dans ce qui était à l'époque la colonie de Saint-Domingue. En fait, les peuples colonisés ont joué un rôle qu'on oublie de raconter dans la Révolution française, dans son déclenchement et son déroulé.
Mais complètement. Pendant très longtemps, on a raconté l'histoire de la Révolution française à travers un prisme national, voire parisien, hein, disons-le. Et en fait, depuis quand même au moins une cinquantaine d'années, les historiennes, les historiens ont mis en valeur la dimension internationale, globale et impériale de ces révolutions. D'ailleurs, pas seulement la Révolution française, je pense à la Révolution américaine aussi. Faut pas oublier que la France, c'est un royaume peut-être, mais c'est aussi un grand empire colonial avec Saint-Domingue, donc aujourd'hui Haïti, qui est la partie occidentale de l'île à cette époque-là, et c'est 500 000 esclaves. Donc c'est la perle des Antilles, c'est indispensable dans le commerce du sucre et dans le commerce international, et là, dès les années 1760, y a des contestations, des révoltes, qui viennent des esclaves, de ceux qu'on appelle les libres de couleur, qui sont un peu une catégorie intermédiaire, qui sont libres mais considérés comme non-blancs, et puis aussi les colons, parce que qui se disent victimes de l'emprise de la métropole. Et tout ça joue en permanence pendant la décennie révolutionnaire.
Nous sommes d'ailleurs le 23 mai, journée nationale en France en hommage aux victimes de l'esclavage colonial, et on voit justement dans votre livre que l'abolition de l'esclavage, encore portée au crédit de la Première République, est finalement moins le produit de l'esprit des Lumières et de l'esprit révolutionnaire que celui de ces révoltes dans les colonies de l'époque, c'est ça ?
Oui, c'est aussi la volonté dans cette BD de faire un peu aussi de l'histoire par le bas et de montrer l'action des anonymes. C'est cette abolition de l'esclavage, donc je parle de celle du 4 février 1794, qu'on porte toujours au crédit de la métropole. Et d'ailleurs que les métropolitains se sont appropriés à travers
avec
les images,
avec
beaucoup de fierté. Nous, les révolutionnaires, on est émancipateurs. Alors, c'est pas complètement faux, mais en fait, quand on regarde un peu comment ça s'est passé, c'est sans le mouvement des esclaves, qui ont âprement négocié leur liberté, puis celle de leurs femmes, des enfants, de aussi tous les esclaves qui, trop abîmés par le travail servile, pouvaient plus de s'engager dans l'armée républicaine, puisque c'est aussi pour monnayer leur engagement qu'on les a émancipés. Sans ce travail-là, sans ces soulèvements-là, il n'y aurait jamais eu d'abolition de l'esclavage. Et le 4 février 1994, quand les députés le votent, alors ils votent l'abolition de l'esclavage, c'est la première fois presque à l'échelle de tout un empire. En fait, ils ne font que régulariser une situation qui a eu lieu de fait quelques mois avant à Saint-Domingue.
Et c'est l'un des nombreux aspects passionnants de votre bande dessinée, dont je rappelle le titre, Notre Révolution de l'Ancien Régime à la Première République, dans la série Histoire dessinée de la France. C'est aux éditions de La Découverte et La Revue dessinée. Vous co-signez d'ailleurs cet ouvrage avec Mathieu Denis et Jean-Paul Krasinski au dessin. Merci Guillaume Mazot.
C'est moi qui vous remercie.
À bientôt sur RFI, très bonne journée. Et il est bientôt 6h30 en temps universel. L'actualité continue sur la Radio du Monde.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Émission Questions de femmes, nous parlons de la prévention et de la prise en charge de l'anémie, véritable problème de santé publique pour les femmes en Afrique subsaharienne.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Un jour au village, Penaï Traoré.
Apprendre aux jeunes en milieu rural à profiter des opportunités professionnelles de leur région au lieu de partir vers les grandes villes. C'est l'objectif du Centre Cœur Yakar au Sénégal. Nous serons avec les élèves de ce lieu de formation qui associe agriculture, élevage et hôtellerie.
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.
BPM.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Cette semaine, dans ma Selecta, et même dans l'histoire d'un live, un concert acoustique de la chanteuse américaine Alicia Keys, il est beaucoup question d'amour. Celui qu'on pense avoir trouvé, celui qu'on laisse filer, l'amour dont on a besoin, par-dessus tout.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol, tous les dimanches à 14h10 TU sur RFI.
BPM.